La Galatrice, c'est votre émission d'exhortation, d'édification et de méditation profonde. L'air de la vérité, c'est votre émission où la vérité biblique est proclamée sans détour, sans complaisance, sans compromis et sans concession. Collectez-vous toujours très nombreux et recevez la délivrance et recevez la vie. Et surtout, n'oubliez pas de passer le message autour de vous. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Abondamment. Amen.
Préparez-vous. Préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers auditeurs, très chères auditrices, vous êtes bel et bien à l'écoute de votre très chère émission, L'Heure de la Vérité. Vous recevez tous, où que vous soyez, mes sincères et chaleureuses salutations. Dans le tout-puissant, magnifique et glorieux nom du Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga, le Seigneur Jésus-Christ. Oui, comme vous l'avez écouté, c'est bel et bien l'Heure de la Vérité. Pour vous servir, je suis... Je reste et je demeure toujours votre très humble serviteur, le pasteur Rodrigue Genji. Et cette émission se déroule sous l'œil très vigilant de son excellence, sa majesté, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, l'incomparable, toujours imité mais jamais égalé, le prince de paix, l'admirable conseiller, le seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux privilège qu'il nous accorde une fois de plus et de passer un peu de notre temps dans sa sainte parole. Parce que un petit instant dans la sainte présence du Dieu vivant vaut mieux que mille ailleurs. Donc rassurez-vous, vous avez vraiment très bien fait d'être à l'écoute à partir de ce moment même. Oui, nous bénissons vraiment le Très-Haut qui nous accorde d'avoir ce merveilleux privilège, à savoir ce rendez-vous que nous avons avec lui, ce rendez-vous que nous avons avec la vérité. Et je précise que ceci n'est qu'un petit rendez-vous, oui, par rapport au grand rendez-vous qui nous attend. Peut-être beaucoup ne le savent pas, sachez que vous avez un grand rendez-vous avec le Seigneur. Oui, le jour du jugement dernier, ça c'est un rendez-vous que personne ne manquera. Que ce soit les vivants et les morts. Parce qu'il est écrit que Jésus-Christ reviendra un jour pour juger les vivants et les morts. Ça, c'est un grand rendez-vous que personne ne manquera. Alors, si vous n'êtes pas encore en règle avec le Seigneur Jésus-Christ, il est encore temps pour vous. Oui, de vous réconcilier avec lui pendant qu'il est encore temps. Parce que si vous n'acceptez pas le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, comme votre Seigneur et Sauveur. Ce qui est certain, c'est qu'un jour, vous l'affronterez certainement comme votre juge. Et là, ça ne sera pas du tout bon. Parce qu'après le jugement dernier, la Bible nous parle de l'étang ardent de feu où seront jetés tous ceux qui ont refusé le don gratuit de Dieu, à savoir le salut qu'il a offert en Christ, qui s'est donné à la croix pour nous racheter. Oui, tous ceux qui n'ont pas reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur, pendant qu'ils étaient vivants, la Bible nous dit qu'ils seront jugés et jetés dans un étang ardent de feu. Donc mon souhait, c'est que vous tous qui m'écoutez, où que vous soyez, si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, que vous le fassiez, pourquoi pas, à partir de maintenant même, tout simplement, en adressant cette courte prière au Seigneur, en lui disant au Seigneur Jésus, je sais que je suis un pauvre pécheur, une pauvre pécheresse, mais je crois que tu es mon Sauveur. Je crois que tu es mort à la croix pour me sauver. Ainsi, je te confesse mes péchés. Je te demande sincèrement pardon. Oui, Seigneur, pardonne-moi. Je t'en supplie. Et purifie-moi par ton sang précieux versé à la croix. Et que ton Saint-Esprit que tu as promis à ceux qui croiraient en toi vienne dans mon cœur maintenant même. Et fasse de moi un enfant de Dieu. Merci, Seigneur Jésus, de m'écouter, de m'exaucer et d'entrer dans mon cœur, dans ma vie, par ton Saint-Esprit. Seigneur Jésus, je prends aussi l'engagement de te suivre et de faire désormais ta volonté en toutes choses. En comptant sur ta grâce et sur la puissance de ton Saint-Esprit pour accomplir ta volonté. Merci Seigneur Jésus de m'écouter et de m'exaucer. Amen. Très chers auditeurs, très chères auditrices, si vous avez fait cette courte prière avec foi, croyez-moi, le Seigneur Jésus-Christ vous a écouté et il vous a également exaucé. Lui-même, il a dit, je ne mettrai point dehors quiconque vient à moi. Oui, Jésus a dit qu'il ne mettra point dehors quiconque vient à lui. Alors, si vous avez ouvert votre cœur avec foi et sincérité, sachez que le Christ est entré. Et désormais, honorez votre promesse, à savoir le suivre, le servir, et surtout vous efforcer de faire sa volonté en toutes choses, bien entendu, en lisant sa sainte parole jour après jour, et en priant, et aussi en vous joignant à ceux-là qui s'efforcent de le suivre, de le servir en esprit et en vérité. Vous êtes bel et bien à l'écoute de l'heure de la vérité. L'heure de la vérité, c'est votre émission de méditation profonde, votre émission où la vérité biblique est proclamée sans détour, sans compromis et sans concession. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui libère, la vérité qui sauve. Parce que Dieu dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous allons continuer notre partage sur l'Église. Un petit rappel, nous sommes en train d'aborder une série d'enseignements concernant les fausses doctrines. Et nous sommes sur l'Église. Oui, après avoir partagé sur le chemin du salut, le baptême, la personne du Seigneur Jésus-Christ, les serviteurs de Dieu, nous sommes sur l'Église. Et beaucoup de choses ont été dites jusqu'à ce jour-ci, jusqu'à cette heure-ci. Que ce soit les sujets que nous avons déjà eu à étudier en dehors de l'Église, que ce soit concernant même l'Église, beaucoup de choses ont été déjà dites. Et nous allons continuer toujours sur l'Église, puisque c'est un sujet vraiment très très intéressant. Puisqu'on ne peut pas parler de foi, on ne peut pas parler du Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas parler de l'Église. Mais avant de continuer de nous entretenir sur l'Église, qu'est-ce que l'Église à la lumière des Saintes Écritures, nous allons une fois de plus lire dans Matthieu chapitre 16, les versets 2 et 3. Je vous conseille vivement d'avoir un stylo et sur quoi noter, parce que mon désir et mon souhait, oui, mon désir ardent, c'est vraiment que votre foi soit fondée uniquement sur la sainte parole du Dieu vivant et non sur la sagesse des hommes et non sur les dogmes et les traditions des hommes. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16, les versets 2 et 3, où il est écrit, Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Je reprends à partir du verset 2. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ ici dit que les hommes savent discerner l'aspect du ciel, à savoir qu'il doit pleuvoir, il y aura orage, et ainsi de suite. Mais ils ne savent pas discerner les signes des temps. Donc vous devez savoir en quel temps nous sommes. Oui, en quel temps nous sommes. La Bible nous dit que cette période-ci se situe dans la période des fins des temps. Oui, la fin des temps. Et l'une des choses qui va caractériser la fin de temps, pouvons lire, oui, dans 2 Thessaloniciens, oui, 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du premier verset, il est écrit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères et sœurs, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire, qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Si nous nous arrêtons ici, la Bible nous dit que l'une des choses qui va caractériser la fin des temps, c'est l'apostasie. L'apostasie. Qu'est-ce que l'apostasie? C'est l'abandon de la vraie foi, l'abandon de la vérité biblique. Et lorsque nous regardons autour de nous, si j'ai tenu à aborder une série d'enseignements concernant les fausses doctrines, c'est parce que l'apostasie est déjà là. Les gens ont abandonné les vérités bibliques pour s'attacher à leurs dogmes, à leurs traditions religieuses. C'est pour cette raison que vous pouvez vous rendre compte avec moi qu'il y a beaucoup de choses qui sont claires dans la parole de Dieu, mais que dans les systèmes religieux, on pratique exactement le contraire. En fait, c'est ça l'apostasie, l'abandon de la vraie foi, l'abandon de la vérité. C'est ça l'apostasie. Et nous devons aussi savoir que le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci dans Matthieu chapitre 24, le verset 45. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Quel est donc le serviteur fidèle, prudent, que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Oui, la nourriture au temps convenable. Oui, la Bible nous parle ici de la nourriture au temps convenable. Donc, la nourriture qui est ici, la parole de Dieu, au temps convenable, nous sommes à la fin des temps. Donc, normalement, il y a une nourriture qui convient à cette période-ci de l'histoire, à cette période de notre existence, la fin des temps. La parole de Dieu, donc les hommes ont besoin maintenant, c'est la vérité biblique, c'est le retour à la pure parole de Dieu pour se préparer au prochain retour du Seigneur. C'est pour cette raison que moi, je ne suis pas là pour prêcher une religion, pour défendre une religion ou un système religieux. Je suis là tout simplement pour vous présenter les vérités bibliques profondes qui vont vous préparer pour le prochain retour du Seigneur. Vous êtes libre d'accepter ou de refuser. Quant à moi, je refais mon devoir aux yeux de Dieu. Et dans Daniel chapitre 12, le verset 4. Oui, Daniel, chapitre 12, le verset 4. Il est écrit ceci. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit au prophète Daniel qu'à un moment donné, il faut que la connaissance s'augmente. Lui-même, les choses qui étaient cachées vont être révélées et la connaissance augmentera. Donc ne soyez pas surpris que certaines choses que les hommes avaient cachées, certaines vérités bibliques que les hommes avaient foulées aux pieds, avaient cachées, que ces vérités soient mises au jour. Ça fait partie du plan du Seigneur. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ va confirmer cela dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 10, le verset 26. Oui, Matthieu chapitre 10, le verset 26. Il est écrit ceci. C'est Jésus-Christ lui-même, le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui dit. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il n'y a rien de caché. Rien de caché qui ne doivent être couverts, ni rien de secret qui ne doivent être connus. Donc tout ce que les hommes ont fait en cachette dans les ténèbres vont être mis à jour. Afin que ceux-là qui cherchent le Seigneur, qui cherchent le chemin de la vérité puissent trouver ce chemin qui mène réellement à Dieu, qui mène à la vérité, qui mène au salut, qui mène à la délivrance. Parce qu'on a vraiment trompé les hommes. On a trompé les hommes avec la Bible. Le décor ainsi planté, très chers auditeurs, très chères auditrices, nous allons vraiment nous pencher sur l'Église. L'Église, qu'est-ce que l'Église? J'ai déjà dit beaucoup de choses sur l'Église. Par exemple, à savoir que l'Église du Seigneur Jésus-Christ n'est pas un système religieux, n'est pas une religion. L'Église du Seigneur Jésus-Christ n'est pas un bâtiment, un temple ou tout ce que vous pouvez imaginer autour de vous qu'on appelle Église. Tout cela n'a rien à voir avec l'Église selon la sainte parole du Dieu vivant. Vous pouvez ouvrir votre Bible. De la première page à la dernière, vous n'allez pas trouver le nom d'une religion à l'intérieur. Dieu n'est pas la religion. Dieu ne se trouve pas dans la religion. Ce sont les hommes qui ont créé la religion et les systèmes religieux. L'Église, qui vient du mot Ecclesia, c'est une assemblée de personnes qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ en esprit, en vérité, et qui sont habitées par son Esprit Saint. Oui, et qui s'efforcent de marcher dans la sainteté, dans la soumission totale à Dieu et à sa parole, et que le Seigneur Jésus-Christ reviendra chercher un jour. C'est ça l'Église. Et la Bible nous dit que cette Église, Jésus-Christ lui-même étant le fondateur, il est également la tête. Mais de nos jours, nous voyons beaucoup de systèmes religieux, beaucoup d'empires religieux qui ont des fondateurs et qui ont des personnes qui sont à la tête, qui dirigent comme les entreprises commerciales et autres. Nous avons vu également que l'Église du Seigneur Jésus-Christ est également appelée corps de Christ. Corps de Christ, Jésus-Christ étant la tête, et chaque personne qui accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur fait partie de son corps. Et la Bible l'appelle membre du corps de Christ, pas membre d'une religion, pas membre d'un système religieux, mais membre du corps de Christ. Parce que vous pouvez être membre actif d'un système religieux et ne pas être membre du corps de Christ. Vous pouvez être dans un registre d'un système religieux alors qu'au ciel, Dieu ne vous connaît pas. Parce que le dernier jour, Dieu ne doit pas vous demander quelle était votre religion. Ça ne comptera pas. N'allez pas lui dire, non, j'étais catholique fervent, protestant évangélique, vraie église, plein évangile, témoin de Jéhovah, adventiste, ministère de ceci, ministère de cela, mission ceci. Tout cela, Dieu n'aura pas besoin de toutes ces choses-là qui ont été créées par les hommes. Il va tout simplement vous demander, qu'avez-vous fait de votre vie? Est-ce que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Oui ou non? Ça, il faut y penser. Il faut vraiment y penser. Dieu n'a créé aucun système religieux. Et maintenant, dans une localité donnée, nous avons partagé longuement dessus, nous avons vu que une assemblée ou une église, c'est là où deux ou trois sont assemblés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Selon que lui-même il a dit, nous avons lu cela la dernière fois dans Matthieu, chapitre 18, où le Seigneur Jésus-Christ a dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il n'a pas dit, là où deux ou trois sont assemblés au nom d'un système religieux, en son nom. Donc dans une localité donnée, voilà l'église selon le Seigneur. Là où les gens sont assemblés en son nom, tout simplement. Non, au nom d'un système religieux ou d'une religion. Vous dites qu'en réalité, l'église du Seigneur Jésus-Christ, dans une localité donnée, n'a pas besoin d'un nom ni d'une plaque publicitaire. Et nous avons également vu que les premiers chrétiens s'assemblaient même dans leurs maisons. Et la Bible appelait cela l'église. L'église qui est dans la maison de tel. Nous avons lu beaucoup de versets. Par exemple, nous avons lu dans Romains chapitre 16, le verset 5, Colossiens chapitre 4, verset 15 et Philémon, les deux premiers versets qui confirmaient cela. La Bible ne disait pas que c'était une église parce qu'ils étaient dans un temple très orné. Pas du tout. Très chers auditeurs, très chères auditrices, je tiens à signaler que vous pouvez envoyer vos SMS au 96 36 25 40 96 36 25 40 ou aussi au 77 61 93 77. Si vous le souhaitez, si vous rappelez-vous, nous sommes en train de parler de l'église. L'église selon la Bible. Oui, l'église selon la Bible. Nous allons voir que l'une des choses qui caractérisait l'église, c'est que le péché n'était pas toléré. L'église primitive. Mais avant de lire les versets qui confirment cela, je tiens à souligner que les églises qui sont dirigées par un pasteur, j'ai longuement parlé de ça pour ceux qui étaient à l'écoute lorsque je parlais des serviteurs de Dieu, que à la lumière des Saintes Écritures, les assemblées locales devaient être dirigées par les anciens et non par un pasteur. Il y a tellement de versets que nous avons lu. Oui, les églises, les assemblées, puisque nous parlons de l'église, étaient dirigées par les anciens et non par un pasteur. Les pasteurs, quant à eux, avaient un ministère itinérant. C'est-à-dire, travailler dans le corps de Christ, là où les enfants de Dieu ont besoin de leur ministère. Donc, une assemblée locale qui a à sa tête un pasteur qui dirige, ce n'est pas biblique. Ça va surprendre beaucoup de gens, mais ce n'est pas biblique. Les assemblées étaient dirigées par les anciens. Les églises sous forme pastorale, ou bien l'église sous forme pastorale dirigée par un homme, que ce soit par un prêtre ou par un pasteur, remonte de l'époque romaine. Oui, lorsque les empereurs, n'ayant pas pu détruire l'église du Seigneur Jésus-Christ ou les premiers chrétiens, ils ont mis en place une stratégie pour pouvoir détruire ou pouvoir contrôler l'église. Ils ont institutionnalisé l'église. Oui, ils ont officialisé l'église. Et c'est ainsi que ils ont commencé à proposer même les temples aux chrétiens. Et lorsque les chrétiens ont accepté cela, en fait, qui était un piège, à partir de ce moment, les politiciens sont entrés dans l'église, particulièrement les empereurs. Et ils ont établi un évêque dans chaque ville. Et c'est ainsi que, en dessous de l'évêque maintenant, il devait avoir des gens qui lui sont subordonnés. En fait, c'était hiérarchisé de cette façon. Et c'est ainsi qu'une église locale s'est retrouvée, au lieu d'être dirigée par plusieurs anciens, dirigée par un homme qui lui-même devait rendre compte à son chef et qui, à son tour, devait rendre compte à son chef, ainsi de suite. Ce système pyramidal, en réalité, ne vient pas de la Bible. Oui, ça ne vient pas de la Bible. Les assemblées locales et bibliques étaient autonomes. Par exemple, l'église d'Antioche, l'église d'Éphèse ou de Corinthe n'avait pas de compte à rendre à une église mère quelque part. C'était ça le modèle biblique. Une église biblique qui avait déjà les anciens pour diriger, ce sont ces anciens qui devaient prendre soin de l'église localement parlant. Maintenant, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes et prophètes pouvaient venir rendre ministère dans cette assemblée locale. Et les anciens étaient libres d'accepter un enseignement ou de rejeter. Mais nous voyons que lorsque nous regardons l'organisation de l'église que nous avons de nos jours, c'est très très loin de ce qui est biblique. Très chers auditeurs, très chères auditrices, je vous invite à rester tout simplement à l'écoute. Vous écoutez toujours l'heure de la vérité. Vous connaissez la vérité vous rendra libre. Avant de continuer, je vais répondre à ce message que je viens de recevoir venant de Philomène, qui pose cette question. Qu'est-ce qui est à l'origine de la création de plusieurs églises? Ça, c'est la question de Philomène. Je vais répondre à cette question à la lumière des Saintes Écritures. Nous sommes dans Genèse chapitre 11, à partir du premier verset au verset 9. Oui, beaucoup peuvent être surpris que l'origine des religions remonte si loin, à savoir dans l'Ancien Testament, même avant que Jésus-Christ ne vienne. La Bible nous dit à partir du premier verset que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Chinéa et ils y habitaient. Ils se disent l'un et l'autre, « Allons, faisons des briques, cuissons-les au feu. » Et les briques les servirent des pierres et le bitume les servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Si nous nous arrêtons ici, nous voyons déjà avec la révélation de Dieu, nous pouvons voir ici l'origine des systèmes religieux. Oui, les systèmes religieux viennent de Babylone, des Babel. Babel vient de l'hébreu Balal, qui veut dire confondre. Donc dans Babel, il y a confusion. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a la confusion. Quand les gens parlent de Jésus, les gens disent qu'ils ont la même Bible. Mais parfois, ils ne s'entendent pas. Parfois, ils s'entredéchirent. Ils prêchent les contradictions. En fait, c'est la confusion. C'est ça. Aujourd'hui, les gens ne savent même plus vers qui se tourner. D'ailleurs, les religions et les systèmes religieux, on en crée tous les jours. C'est vraiment la confusion totale. Ça vient de Babel. Babel veut dire confusion. Et la Bible nous dit que les gens, à un moment donné, avaient une ambition, un projet, qui était de se faire un nom. Se faire un nom. Et nous voyons que tous les systèmes religieux ont un nom. Alors que la Bible n'a pas demandé aux gens de se donner un nom. Se faire un nom. Nous sommes de telle religion, notre nom c'est ceci, notre nom c'est cela. Et ils essaient toujours de choisir un nom qui va concurrencer les noms qui existent déjà. Ça vient de Babylone, de Babel. Et leur vision c'était également de bâtir une tour dont le sommet va toucher le ciel. En fait, il n'y avait pas Dieu dans leur vision, dans leur ambition. C'était se faire un nom et bâtir une tour qui va toucher même le ciel. Et Dieu était obligé de descendre pour les confondre, pour qu'ils cessent de mettre en œuvre, ou qui n'arrivent pas à mettre en œuvre ou à permettre que les projets aillent à son terme. Aujourd'hui, les systèmes religieux procèdent presque de la même façon. Un, ils choisissent un nom. Après avoir choisi un nom, ils vont tout faire pour que ce nom soit le plus haut possible. Et ils vont tout faire pour être le plus grand possible, avoir le grand nombre de fidèles possible, avoir le plus gros temple possible. En fait, c'est presque la même chose. Mais si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne peut pas discerner cela. J'y reviendrai en détail. Et je vous invite à ouvrir grandement vos cœurs et vos oreilles. Parce que je ne crois pas que ce que vous êtes en train d'écouter ici, vous aurez l'opportunité et l'occasion de l'écouter encore ailleurs. Je vais répondre une fois de plus à ce message. Bonsoir à vous, s'il vous plaît. Quels sont les 10 commandements de Dieu? Quels sont les 10 commandements de Dieu? Pour répondre brièvement, les 10 commandements de Dieu sont dans Exode chapitre 20, dans l'Ancien Testament. Mais en passant, je voudrais dire que les 10 commandements, c'était juste le résumé des commandements de Dieu dans l'Ancien Testament. Parce qu'en fait, il y avait des milliers de commandements. 10 commandements, c'était juste le résumé. Oui, beaucoup ne le savent pas. Nous sommes en train de parler de l'Église à la lumière des Saintes Écritures. Si nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 5, Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du premier verset, ou verset 11. Vous pouvez relever et lire après. En fait, dans cette portion de Sainte Écriture, dans Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du premier verset, au verset 11, la Bible nous dit que Ananias et Saphira, un couple, vont être frappés à mort par le Seigneur. C'était l'église primitive. Tout simplement parce qu'ils avaient menti. Oui, ils avaient menti. Et le Seigneur les a frappés. Et ils sont morts. Tous les deux. Le Seigneur était en train de donner un message fort. Oui, à ceux-là qui se disent chrétiens et qui voudraient le servir en tant que chrétien. Dieu ne voulait pas que l'église naissante regorge en son sein des menteurs. D'ailleurs, qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 10, à partir du verset 10 au verset 12, nous sommes dans Actes chapitre 5. Au même instant, elle tomba aux pieds des apôtres et expira, c'est-à-dire la femme d'Ananias. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent. Ils l'ensevelirent auprès de son mari. Verset 11. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. La crainte s'empara. Aujourd'hui, les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Les gens fréquentent les milieux religieux. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Pas étonnant que l'on voit dans les systèmes religieux des menteurs, des voleurs, des escrocs, des soulards, tout ce que vous pouvez imaginer. En fait, parfois, c'est dans les églises qu'on retrouve le monde. Toutes sortes d'impuretés, de mauvaises actions. Et malheureusement, ils sont là et Dieu ne les frappe pas comme il avait fait avec Ananias et Saphira. C'est juste pour dire que Dieu n'est plus là. Dieu a abandonné les hommes avec les choses, avec les systèmes religieux. Parce que ce sont les choses, Dieu les a laissées avec les choses. Parce que là où Dieu règne véritablement, le péché ne peut pas prospérer. Dieu punit sévèrement le péché. Parce que Dieu est d'abord très très saint. C'est la première nature de Dieu. Alors, réfléchissez. Regardez autour de vous. Quand dans les milieux religieux, dans les systèmes religieux, vous voyez les gens qui se disent chrétiens, qui se disent pasteurs, prêtres, anciens, diacres, choristes, vivre dans le péché, l'adultère, la fornication, le mensonge. Mais on est où là? Ça n'a vraiment rien à voir avec l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et on laisse ces gens-là tranquilles, assis, parfois au premier banc, tout simplement parce que le souci premier, ce n'est pas de voir les gens sauvés, ce n'est pas de voir les gens entrer au ciel. C'est de venir remplir les bancs qu'on a mis dans les temples pour accueillir. Oui, parce que le but en construisant des grands temples, c'est que ces temples soient remplis. Et quand les gens viennent remplir ce temple, non, ils sont satisfaits. Parce qu'en passant, quand le temple est grand, quand il y a les fidèles, peu importe la vie qu'ils mènent, s'ils viennent déjà, et surtout s'ils donnent les dîmes et les offrandes, non. Là, on n'a plus rien à aller demander. C'est ça. Non, tout cela n'a rien à voir avec l'église du Seigneur Jésus-Christ. Les gens utilisent malheureusement la Bible et le nom du Seigneur Jésus-Christ pour faire le business. Entre nous, lorsque vous allez dans un système religieux, le pasteur ou le prêtre ne sait même pas où vous êtes, qui vous êtes, mais qui se précipite de prendre vos dîmes et vos offrandes, alors qu'il ne sait même pas de quelle manière vous gagnez votre argent, d'où vous êtes, que vous soyez sorcier ou brigand ou braqueur, ça importe peu, pourvu que vous veniez donner de l'argent. Ça n'a rien à voir avec l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cette raison que nous pouvons voir dans beaucoup de systèmes religieux, dans beaucoup d'assemblées d'églises, des gens qui sont tranquillement assis, alors qu'ils ne devraient pas être là. Parce que l'église est faite pour les chrétiens nés de Dieu, pour les enfants de Dieu, qui veulent vraiment servir le Seigneur et être des modèles et des exemples dans la société. Et non pour les pécheurs, les voleurs et autres qui viennent se cacher. C'est regrettable. Mais cette émission a aussi pour vocation de tirer la sonnette d'alarme afin que la personne qui a les oreilles pour entendre puisse vraiment entendre. Je vais aussi répondre à ce message qui vient de Rostand. Yves Rostand, oui, qui dit: pourquoi les catholiques ne prennent pas la communion chez les protestants? Oui, c'est un message de Yves Rostand. Ça, c'est même un exemple palpable qui nous montre carrément que les systèmes religieux, en réalité, ce n'est plus vraiment Dieu qui les servent. La Bible nous dit qu'il y a un seul Dieu. Un seul vrai Dieu, un seul Seigneur, un seul Esprit, un seul baptême. Alors comment se fait-il que ces personnes qui disent servir ce seul Dieu, ce seul Seigneur Jésus, qui ont la même Bible, ne peuvent pas s'entendre ou ne peuvent pas prendre la communion ou la Sainte Seine ensemble? Ça montre tout simplement que ils ne servent pas le même Dieu. Oui, c'est aussi simple que cela. Parce que moi qui suis en train de vous parler, si je sais le vrai Dieu, si vous servez également le vrai Dieu, si vous lisez la parole de Dieu, vous pratiquez cette parole comme moi, il n'y a pas de raison que nous entendions pas. Puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, un seul vrai Dieu, une seule vérité, une seule Bible, une seule vraie Bible. Oui, c'est aussi simple que ça. Donc le fait qu'il y ait des religions tout autour de nous qui prétendent être même les vrais, mais qui malheureusement ne peuvent pas s'entendre, ne peuvent pas communier ensemble, c'est une preuve palpable que Dieu n'est plus dans ces affaires-là. C'est difficile d'admettre et d'accepter, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Chaque système religieux essaye de défendre ses convictions personnelles, ses dogmes, ses traditions, puisque tout n'est plus centré sur la parole de Dieu et non plus sur Christ. C'est normal que chacun tire la couverture de son côté. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Écoutez l'heure de la vérité. Oui, vous écoutez l'heure de la vérité. Vous connaissez la vérité. La vérité vous rendra libre. J'ai également un message qui vient de l'église de Bassamba qui demande si c'est vrai que je n'arrive pas à bien lire, mais je vois quand même, il dit, celui qui ne va jamais à l'église, qui croit en Dieu dans son cœur, la suite... Je n'ai pas vraiment très bien compris. Je ne sais pas s'il a voulu dire, s'il peut prier en faisant le signe de croix avant de dormir. Si je commence par la fin, faire le signe de croix avant de dormir, signe de croix, ce n'est pas biblique. Oui, la Bible n'a demandé nulle part que pour prier, il faut faire le signe de croix. Ça, ce n'est pas biblique non plus. Si quelqu'un peut ouvrir la Bible, montrer cela, tant mieux, mais ça n'existe pas. Jésus a dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. La prière, en fait, qu'est-ce que c'est que la prière? La prière veut dire tout simplement parler à Dieu. Voilà la définition la plus simple de la prière, parler à Dieu. Comme un enfant parle à son père. Dieu est notre père. Oui, Jésus avait dit, lorsque vous priez, dites notre père. Dieu est notre père. Dieu n'est plus seulement le créateur assis là-haut. Pour cette personne qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ, Dieu est désormais son père. Et tu peux lui parler comme un enfant parle à son père. Que ce soit quand tu veux te coucher en lui disant de te protéger, de te garder contre les esprits maléfiques, de te donner un sommeil doux, paisible et reposant et de préparer la nouvelle journée pour toi. Une prière simple, avec foi, Dieu l'écoute et l'exauce. Le Seigneur Jésus-Christ également écoute et exauce. Oui, parce que je peux lire cette référence. Nous sommes dans Jean chapitre 14. Oui, Jean chapitre 14. Vous pouvez relever et vérifier par la suite. Nous sommes au verset 13 où il est écrit: tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Tout simplement, demandez et non faire les signes de croix. Il n'a pas dit tout ce que vous allez demander à mon nom, plus l'eau, plus le sel, plus les anges, plus la Sainte Vierge Marie. Non, il a dit à mon nom. Le nom du Seigneur Jésus-Christ suffit. Il a dit tout ce que vous demanderez à mon nom. Un point. C'est tout. Et la première préoccupation, c'était je crois en Dieu dans mon cœur, mais je ne vais jamais à l'église. Déjà, il faut définir la notion de l'église. En réalité, on ne part pas à l'église. C'est vrai que nous avons été habitués à cette expression. On ne part pas à l'église. Parce que l'église, c'est le chrétien lui-même, c'est le croyant lui-même. L'église, ce n'est pas un lieu. L'église, ce n'est pas un temple. Le lieu de rassemblement des chrétiens, c'est tout simplement une assemblée. En fait, ce n'est pas l'église. C'est lorsque les chrétiens s'assemblent maintenant qu'ils forment l'église. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 et 17, nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que Dieu habite dans nos cœurs. Donc c'est le chrétien lui-même qui est le temple de Dieu. En fait, c'est lorsque les chrétiens s'assemblent qu'ils forment l'église. Un lieu ne saurait jamais être l'église. Un bâtiment ne saurait être l'église. Un bâtiment reste un bâtiment. D'ailleurs, dans Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 24, vous pouvez lire: il est clair et formel que Dieu n'habite pas dans un temple fait de main d'homme, mais que dans le cœur de l'homme. Donc, vous pouvez bien croire en Dieu dans votre cœur. Mais, si vous avez réellement cru de tout votre cœur, si vous avez réellement accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, vous faites partie du corps de Christ. Vous faites partie de son corps. Et s'il y a autour de vous certaines personnes qui font partie du corps de Christ comme vous, c'est tout à fait naturel que vous puissiez vous joindre à eux pour prier. Mais, je dis mais, avant de vous joindre à un groupe quelconque, priez d'abord chez vous et demandez au Seigneur Jésus lui-même de vous conduire vers ceux-là qui le servent en esprit en vérité. Parce que la vérité, c'est que beaucoup de religions, beaucoup de systèmes religieux, beaucoup de groupements religieux n'ont rien à voir avec l'église du Seigneur Jésus. Donc je ne peux pas encourager quelqu'un de se précipiter dans n'importe quel système religieux, dans n'importe quel mouvement religieux, tout simplement parce que on parlait de Dieu là-bas, on chantait, on tape les mains, on tape les tam-tams, il y a les choristes et autres. Non. Parfois, à l'intérieur, c'est autre chose. C'est pour cette raison que si vous avez réellement accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, normalement, vous ne devez pas vivre seul. Si autour de vous, il y a les vrais enfants de Dieu, vous devez tout simplement prier dans votre cœur en demandant au Seigneur de vous conduire lui-même vers ceux-là qui ont cru aussi en lui et qui s'efforcent de le servir en esprit, en vérité. Si vous priez avec foi, restez chez vous calmement. Au moment opportun, le Seigneur lui-même va vous conduire vers ceux-là qui aiment vraiment le Seigneur et qui le servent en esprit et en vérité. C'est d'ailleurs ce que nous allons lire dans 2 Timothée chapitre 2, verset 22. Vous pouvez noter et vérifier par la suite. 2 Timothée 2, verset 22. Il est écrit: fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. La Bible souligne avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Cela sous-entend que beaucoup n'invoquent pas le Seigneur avec un cœur pur. Beaucoup sont tout simplement des hypocrites. C'est la bouche qui parle de Dieu, mais il n'y a pas Dieu dans leur cœur. Que celui qui a vraiment des oreilles pour entendre, entende. Oui, il y a une question qui n'est pas directement liée à l'église, qui dit: pourquoi les prêtres ne se marient pas et encouragent les fidèles pour le mariage? Ce n'est pas vraiment le thème de notre débat de ce jour, de notre entretien de ce jour. Lorsque je vais m'entretenir avec vous sur le mariage, j'y reviendrai en détail, oui, puisque j'ai promis partager avec vous également sur le mariage et également les fausses doctrines concernant le mariage. Nous sommes sur l'église. Et dans 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 9, 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 9, nous pouvons lire ceci. Vous pouvez également relever et après vérifier tranquillement. Il est écrit: je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nommant frère et débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Verset 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Amen. La parole de Dieu est claire et formelle. Dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, on ne veut pas retrouver les débauchés, les cupides, les idolâtres, les outragés, les ivrognes, les ravisseurs. Et pourtant, nous voyons ces personnes tranquillement assis dans beaucoup d'églises, beaucoup d'assemblées. Et on ne les inquiète pas. Parfois, ils ont même des postes. Ils sont parfois assis très loin devant. Tout ça n'a rien à voir avec l'église du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ va dire dans Matthieu chapitre 18, Matthieu chapitre 18, à partir du verset 15. Oui, nous pouvons lire ceci. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 15. Il est écrit: si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui, seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Verset 17, s'ils refusent de les écouter, dis-le à l'église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Le Seigneur Jésus-Christ dit que lorsqu'on avertit déjà quelqu'un, une fois, deux fois, trois fois, si cette personne ne veut pas changer, la Bible nous dit qu'on le considère comme un païen. Et un païen n'a pas sa place dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous voyons beaucoup de gens qui fréquentent les systèmes religieux, qui sont très fiers d'appartenir à un système religieux, qui défendent les religions de tous les cœurs, de toutes les forces, mais qui sont des vrais païens. Parfois, ceux qui ne vont même pas dans les assemblées chrétiennes sont même mieux que ceux qui y vont. C'est tout simplement regrettable. Parce que tout cela n'a rien à voir avec l'église du Seigneur Jésus. Et dans l'épître de Jacques, chapitre 2, à partir du premier verset au verset 9, il est écrit ceci. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assis-toi ici, à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre, « Toi, tiens-toi là debout, ou bien assis-toi au-dessous de mon marche-pied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Verset 5, écoutez mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avalisez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le bon nom que vous portez? Verset 8, si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Amen. Oui, la Bible nous dit que si dans une assemblée, quelqu'un vient avec un habit magnifique, un riche, et que si on le met au premier banc, on lui donne une place d'honneur, et que si un pauvre arrive, on l'envoie au fond, c'est du favoritisme, c'est un péché. Et c'est ce que nous voyons dans beaucoup de systèmes religieux. Oui. Parfois, dès que quelqu'un arrive dans un système religieux, s'il est un peu riche, le lendemain, il est ancien. Il est diacre, il est ceci, il est cela. On lui donne un titre religieux. Et parfois, il y a les gens qui sont vraiment sincères dans la foi, qui cherchent vraiment Dieu, qui veulent servir Dieu. Mais parce qu'ils sont pauvres, on les néglige, on les laisse toujours au dernier banc. Parfois, on s'en fout, qu'ils soient là ou pas, puisqu'ils ne donnent pas les dîmes et les offrandes comme certaines personnes qui sont riches. Nous sommes où là? Ça n'a rien à voir avec l'église du Seigneur Jésus-Christ. Ça, ce sont les hommes, c'est le business. Comment est-ce qu'on peut privilégier les gens riches dans une église? L'église du Seigneur Jésus-Christ n'a rien à voir avec tout cela. Quelqu'un ne doit pas s'asseoir au premier banc parce qu'il est riche. Quelqu'un ne doit pas avoir une place d'honneur dans une église parce qu'il est riche. C'est la foi qui compte. Ce n'est pas la richesse. C'est la foi. Regardez autour de vous. Je n'invente rien. Regardez. Quand le riche a un petit problème, les jours qui suivent, tous les pasteurs, toutes ces grandes personnes dans l'église sont chez lui. Mais lorsque le pauvre est chez lui, en train de mourir, personne ne passe parce qu'il est pauvre. Et pourtant, il est dans une église, il est dans une assemblée, puisqu'il n'a pas d'argent. Ah, ça n'a rien à voir avec l'église, Seigneur. Ça, ce sont les entreprises humaines des hommes qui, en passant, ils font un peu du business en mettant le nom de Dieu devant. Et en utilisant la Bible, que c'est lui qui a des oreilles pour entendre. Vous qui m'écoutez, si vous êtes dans ce genre de milieu, Franchement, si vous voulez servir Dieu, votre place n'est pas dans ce genre de milieu. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a une église parfaite, une assemblée parfaite sur la terre, mais quand les fondements sont déjà inversés, la Bible nous dit, le juste, que fera-t-il? Les fondements ont été déjà inversés dans beaucoup de choses. C'est pour cette raison que l'église du Seigneur Jésus-Christ a besoin d'une réforme profonde. Et c'est l'heure de la réforme. Si vous voulez être sauvé, si vous voulez être enlevé lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, il vous faut choisir maintenant, pendant qu'il est encore temps, votre camp. Oui. Je ne cesserai jamais de lire ces versets. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25 et la suite, qui dit que Christ a aimé l'église, et non les églises, l'église, et s'est donné lui-même pour elle. Et il reviendra chercher cette église, qui sera une église glorieuse, sans tache, sainte, irréprochable, rien de semblable. Donc nous sommes très très loin de cet idéal. Vous qui m'écoutez, si vous n'avez pas encore cru au Seigneur Jésus, c'est le moment de le faire avant qu'il ne soit trop tard. Et si vous avez vraiment cru au Seigneur Jésus, si le milieu dans lequel vous vous trouvez ne veut pas servir le Seigneur en esprit et en vérité selon sa sainte parole, vous n'êtes pas obligé de demeurer dans ce milieu pour vous perdre avec les autres. Vous avez un choix à faire. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous sommes presque à la fin de notre émission de ce jour. Et j'espère que par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver. N'oubliez pas de passer le message autour de vous. Mais je tiens à dire que beaucoup de mes messages existent sur des brochures, sur des CD, sur des VCD et même sur des DVD. Tout cela est distribué gratuitement. Vous n'avez qu'à me contacter pour entrer en possession de tout cela. Et je tiens aussi à signaler que toutes mes émissions radio, vous pouvez également les réécouter. Tout simplement en vous rapprochant que les honneurs, la louange, l'élévation, l'adoration, les actions de grâce, les acclamations reviennent à celui-là qui est digne de le recevoir, l'incomparable, l'admirable conseiller, toujours imité, jamais égalé, l'alpha et l'oméga, celui qui revient très très bientôt pour chercher ceux qui ont cru en lui et qui persévèrent dans la vérité, le Seigneur Jésus-Christ. Amen.
N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot. Pasteurrodrigue.com. Si vous avez des questions ou des préoccupations quelconques, sentez-vous libre de m'appeler au 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. Et vous pouvez précéder ces deux numéros des 00 237, qui est le code du Cameroun si vous m'appelez hors du Cameroun. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique rodrigue.genji@yahoo.fr. Genji s'écrit NJENDJI. rodrigue.genji@yahoo.fr. C'était l'heure de la vérité, l'heure de la vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Ne l'oubliez jamais, ne l'oubliez jamais. Le vrai bonheur, c'est...
dans la sainte parole du Seigneur Jésus-Christ. Le vrai bonheur, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ et nulle part ailleurs. Le Seigneur Jésus-Christ revient très 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 bientôt. Es-tu prêt? Es-tu prête?